Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, juste avant de monter au ciel, dans quelques jours, le jeudi de l'Ascension, le bon Dieu veut nous donner toute une série de conseils qui sont réunis dans l'épître de Saint-Jacques. Et ces conseils sont très pratiques. C'est la raison pour laquelle Martin Luther ne pouvait pas supporter l'épître de Saint-Jacques. Il avait même supprimé complètement de certaines Bibles protestantes l'épître de Saint-Jacques, qui n'existe tout simplement pas. Et Saint-Luther l'appelait l'épître de paille. Pourquoi ? Parce que Saint-Jacques explique de façon très précise que la foi sans les mœurs, c'est une foi morte. Que la foi sans les actes de la foi, c'est une foi morte. Alors que Luther disait le contraire et enseignait que la foi seule sauve. Je vais déjà vous expliquer souvent, mes chers frères, la foi doit être liée à la vertu de charité. Une foi qui reste une foi purement spéculative et qui ne passe pas dans la vie de tous les jours est une foi qui est morte. Une foi qui est morte, une foi qui est en train de mourir au moins. La foi catholique est une praxis, ne l'oublions pas. On ne juge pas un catholique sur sa façon de croire, on juge un catholique sur sa façon de vivre. Et si la foi que l'on a, la foi intellectuelle, spirituelle que nous avons n'a pas de conséquences pratiques dans notre vie de tous les jours, eh bien c'est que c'est tout simplement pour nous une espèce d'hypocrisie. Donc encore une fois, on ne juge pas un catholique sur son comportement à la messe. On juge un catholique dehors, quand il est dans le monde. Alors Saint-Jacques va nous donner plusieurs exemples et je voudrais revenir sur ces exemples qui sont bien connus, plusieurs conseils plus exactement. Le premier conseil qu'il nous dit, qu'il nous donne, c'est de réfréner notre langue, dit-il. Réfrénons notre langue parce que un chrétien, un catholique qui ne réfrène pas sa langue est un catholique qui a une religion qui est vaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire le verbe réfréner? Dans le mot réfréner, vous avez le mot frein. Donc, réfréner sa langue, ça veut dire mettre un mort dans sa bouche pour pouvoir contrôler sa langue. Lorsqu'on veut utiliser un cheval très fougueux, on commence par mettre dans la bouche de ce cheval un frein, la mort. Et quand le cheval ne veut pas aller où on veut, on tire sur le mort pour justement contrôler la force du cheval. C'est la même chose avec notre langue. Le bon Dieu nous a donné une langue pour louer le bon Dieu, pour le louer. Le bon Dieu nous a donné une langue pour exprimer ce qui se passe dans notre intelligence. Le bon Dieu nous a donné une langue pour parler du vrai. Et souvent, malheureusement, eh bien, nous utilisons notre langue pour heurter le prochain, pour blesser le prochain, blesser les âmes, blesser notre âme et blesser les âmes autour de nous. Donc la première chose que nous devons faire, mes bien chers frères, comme chrétiens, c'est de contrôler notre langue. Il faut savoir plus écouter que parler, dans bien des cas. Et il faut savoir réfléchir avant de parler. Et donc là, Saint-Jacques, avec raison, parle des péchés contre la langue, qui sont extrêmement fréquents. Et j'ai remarqué que ce sont des péchés qui sont très fréquents, je l'ai déjà souvent dit, chez les catholiques de tradition. Et ce qui est encore plus grave, à mon avis, c'est que souvent, on n'y fait pas attention. On ne considère pas ça comme des fautes graves. Et surtout, avec l'usage démultiplié aujourd'hui des médias, des réseaux sociaux et tout ça, sont des péchés de plus en plus fréquents. N'oublions pas, mes bien chers frères, que les péchés contre la langue sont des péchés contre la vertu de justice. Pratiquement tous. Les péchés contre la charité, mais souvent aussi contre la vertu de justice. Pourquoi? C'est avec notre langue qu'on provoque les mensonges. C'est avec nos langues qu'on provoque les isanies, les haines, les inimitiés entre les personnes. Et donc, puisque ce sont souvent des péchés contre la justice, tout péché contre la justice demande une réparation. Et ça, on oublie ces choses-là. Les gens, je vois tout le temps, régulièrement, surtout quand je prêche chez retraite, quand les gens viennent me parler un petit peu pour préparer leur confession, et qu'ils me disent, monsieur l'abbé, je vous rends compte qu'il y a eu beaucoup de péchés contre la langue, des calomnies, des médisances, c'est-à-dire des mensonges contre le prochain pour les calomnies, ou tout simplement des choses vraies dites contre le prochain, mais sans aucune raison proportionnée, ce qu'on appelle une médisance. Et quand je leur demande, mais est-ce que vous avez réparé ces médisances? Est-ce que vous avez réparé ces calomnies? Ils me regardent avec des yeux ronds, en demandant ce que je veux dire. Ils ne réalisent pas du tout que lorsqu'une parole mauvaise est sortie de notre bouche, cette parole mauvaise a fait beaucoup de dégâts autour de nous, surtout si elle était placée sur Internet. Parce qu'évidemment, la parole, quand on dit réfréner sa langue, dans bien des cas dans le monde moderne, ça veut dire aussi réfréner ses doigts pour qu'on n'aille pas taper sur Internet n'importe quoi. N'oublions pas, bien cher frère, que lorsque on répand sur Internet une chose qui est fausse, ou tout simplement une médisance contre le prochain, à cause de la vitesse des électrons, ça fait le tour de la planète en quelques secondes. Et donc, surtout si nous avons fait du mal avec notre langue, ou avec l'expression de notre langue, l'expression écrite de notre langue par des textes écrits qui sont passés au public, eh bien, chef, il nous faut rattraper, il nous faut réparer. Et la réparation de ces péchés contre la charité n'est pas une chose facile, surtout quand c'est une chose qui est vraie. Si on a dit du mal qui est vrai contre le prochain, c'est une médisance. Si c'est du mal grave, une chose que vous avez révélée qui est grave contre le prochain, même qui est vrai, mais que vous n'aviez pas le droit de révéler, c'est une matière grave. Et donc s'il y a matière grave, et si vous savez ce que vous faites, il y a ce qu'on appelle une faute grave. Et pour que cette faute grave puisse être effacée au tribunal de la confession, eh bien, chers frères, il est impératif que réparation soit faite. Rappelez-vous la formule des anciens, réparation ou damnation. Ce n'est pas simplement valable pour le vol, comme beaucoup de gens le croient. C'est valable aussi contre les mensonges. J'ai menti contre le prochain, je dois réparer. Alors attention, mes bien chers frères, peut-être qu'il serait utile pour nous tous, moi le premier, de faire de temps en temps un examen de conscience justement sur ces paroles qui sont sorties trop rapidement, trop fortement de nos bouches, sans qu'il y ait une raison proportionnée pour les dire. Évidemment, s'il s'agit d'une calomnie, un mensonge contre le prochain, il n'y a jamais de raison proportionnée. On n'a jamais le droit de mentir sur le prochain. Si c'est une chose dite contre le prochain qui est vraie, il faut qu'il y ait une raison proportionnée. S'il n'y a pas de raison proportionnée, on n'a pas le droit de ruiner la réputation du prochain. Car tout homme a droit à sa réputation, même fausse. Dans certains cas très particuliers, bien sûr, il y a une obligation de parler. Entre autres pour préserver les âmes d'autres personnes. L'exemple toujours que je donne, très classique, l'exemple pardon, que je donne toujours, c'est l'exemple d'une maman qui a le droit de demander à son fils, à son petit garçon, de ne pas jouer dans la cour de récréation, par exemple, avec tel autre enfant qui a une mauvaise influence sur lui. Là, c'est un mal qui est réel. La maman a le devoir de protéger son petit garçon, sa petite fille, de dégâts faits à son âme. Un père de famille aurait parfaitement le droit de dire, de contrôler par exemple certaines choses que font les enfants, notamment sur Internet, en disant je t'interdis de faire telle chose parce que tu vas faire du mal aux âmes des autres ou tu risques de faire du mal à ton âme. Dans ce cas-là, il y a certains cas où on a le droit de dire du mal des autres, à condition que ce mal soit réel et qu'il y ait, encore une fois, une raison proportionnée. Donc, premier conseil que nous donne Saint Jacques, juste avant l'Ascension, réfrénez notre langue. Deuxième conseil qu'il nous donne, regardez pur, nous dit-il, de ce siècle présent. Parce que la religion catholique, dit-il, est une religion pure et sans tache. Qu'est-ce que ça veut dire, regardez pur de ce siècle présent? Nous gardez pur de l'esprit du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ parle souvent dans l'Évangile de l'esprit du monde, et jamais en termes très gentils. L'esprit du démon, pour lui, c'est une seule et même chose. Donc l'esprit du monde, c'est l'esprit des trois concupiscences. Saint Jacques connaît bien le texte de Saint Jean, on va connaître le texte de Saint Jean, qui va expliquer expressément que tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? Saint Jean dit trois choses, concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, l'orgueil. Donc l'esprit du monde, ce sont ces trois choses, la chair, les yeux, l'orgueil. La chair, tous les péchés contre la pureté, dans le 6e et 9e commandement. Les yeux, le désir, si vous voulez, de tout posséder. L'amour des richesses. Et l'orgueil, évidemment, qui s'oppose à la vertu d'humilité. Et nous garder pur de ce siècle présent veut dire donc de mettre un barrage à la concupiscence des yeux par l'esprit de pauvreté, de mettre un barrage à la concupiscence de la chair par la vertu de chasteté, et mettre un barrage à l'orgueil par la vertu d'obéissance. Et encore une fois, là, il faut faire attention parce que on entend plus exactement trop souvent des grosses bêtises dites même par nos fidèles sur ce sujet. J'entends par exemple régulièrement des gens qui me disent pauvreté, chasteté, obéissance, c'est pour les curés. Pauvreté, chasteté, obéissance, c'est pour les religieux. Moi, je ne suis pas une bonne sœur, je ne suis pas un curé, donc ça ne me regarde pas. Attention! Les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance regardent effectivement les religieux. Mais l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté et l'esprit d'obéissance sont obligatoires pour tous les catholiques. Pourquoi? Parce que c'est par là que le démon pêche. Comment le démon pêche-t-il les âmes? C'est un pêcheur. Il pêche les âmes, il jette son hameçon pour attraper les gens par l'orgueil, par la chair et par la concupiscence des yeux. Alors parfois il y a un hameçon, parfois il y en a deux, parfois il y en a trois. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec les trois choses, les yeux, la chair ou l'orgueil. Il y en a qui ont parfois des problèmes qu'avec deux de ces malheurs, et certains qui ont des problèmes qu'avec une seule de ces trois concupiscences. Donc il faut connaître nos limites, il faut connaître nos propres difficultés, nos propres faiblesses, et lutter contre ça. N'oublions pas, mes bien chers frères, que l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté et l'esprit d'obéissance sont absolument nécessaires pour tous les hommes. On peut même dire qu'ils sont nécessaires au salut. Puisque ce sont les trois fenêtres par lesquelles le démon entre dans nos âmes. On a le devoir d'État de fermer ces fenêtres pour empêcher le démon de rentrer dans nos âmes, c'est absolument évident. Non seulement il faut que cet esprit de pauvreté, cet esprit de chasteté, cet esprit d'obéissance soient dans nos cœurs, mais les parents ont un devoir gravissime de donner cet esprit de pauvreté, de chasteté, d'obéissance à leurs enfants. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais, la concupiscence qui est en train de travailler, de prendre le dessus presque partout, c'est la concupiscence des yeux. Où la plupart des gens ne sont plus capables, si vous voulez, de ne pas tomber dans le matérialisme ambiant. C'est comme ça que le démon détruit tant d'âmes aujourd'hui, en couvrant les gens de choses matérielles. De façon qu'évidemment, l'âme soit remplie de choses matérielles, il n'y a plus de place pour les choses spirituelles. Ou couvrant les âmes, les intelligences et les volontés de choses secondaires, pour qu'il n'y ait plus de place, pour les choses principales. Donc je dois pratiquer cette vertu de pauvreté pour justement devenir simple. Bienheureux, les simples, les pauvres d'esprit, c'est quoi les pauvres d'esprit? Les pauvres en esprit, ce n'est pas les pauvres types, comme disent les gens modernes dans un style un peu imagé. Les pauvres en esprit, c'est ceux justement qui ont la simplicité d'esprit pour pouvoir accéder à Dieu plus facilement. Dieu étant parfaitement simple. Aussi, Dieu a dit, bienheureux les purs. C'est contre la pauvre, bienheureux les purs, parce que c'est contre la concupiscence des, évidemment, de la chair. Et l'humilité, notre Seigneur Jésus-Christ en place, en parle tout le temps. Première condition, dit-il, pour le suivre, c'est quoi? C'est prendre sa croix. La croix, c'est quoi? C'est la croix de l'humilité. La croix, qu'est-ce qu'elle écrase? La croix va écraser l'orgueil. Donc, il nous faut faire là aussi, mes bien chers frères, avant cette grande fête de l'Ascension, un examen de conscience, est-ce que je pratique ces trois concupiscences? Ou est-ce que je couvre mon âme, ma vie de tous les jours, par toute une série de choses matérielles qui m'empêchent justement de faire décoller mon âme pour qu'elle puisse se rapprocher du bon Dieu? Si nous sommes alourdis, si nous avons les poches spirituelles de nos âmes alourdies par toutes ces choses matérielles, comment voulez-vous que nous puissions nous élever vers le bon Dieu? Ce n'est plus possible. N'oublions pas aussi qu'en matière de pureté, il y a toujours matière grave. Il n'y a pas toujours faute grave, attention. Mais il y a toujours matière grave. Pourquoi? Parce que le péché d'impureté, tous les péchés impurs, sont les péchés que le démon nous pousse à faire, qu'il ne fait jamais. Il va commettre les péchés d'orgueil. Comme il n'a jamais péché contre la pureté, parce qu'il a un mépris souverain contre ces choses-là. Alors demandons au bon Dieu, justement, aussi par cette vertu d'humilité, d'arriver à vaincre ces trois concupiscences. On ne peut pas les vaincre complètement, c'est pratiquement impossible. Mais on peut justement arriver à les réfréner au maximum pour les contrôler au moins. C'est pour cela que le bon Dieu nous a donné ces trois belles vertus de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Autre conseil que nous donne Saint Jacques en son épître, il parle de ceux qui écoutent la parole du bon Dieu et qui ne la mettent pas en pratique. Il y a ceux qui déconnectent leur foi catholique de la pratique de la foi. C'est ces gens-là dont il parle. Et ceux qui déconnectent, qui écoutent la parole du bon Dieu mais qui ne la pratiquent pas, nous dit-il, c'est comme un homme qui se voit dans un miroir. Il regarde son image dans le miroir, et puis il passe, l'image disparaît tout de suite. Et c'est une espèce d'âme complètement volatile. Des âmes complètement volatiles parce que il sépare la vie publique de la vie privée l'Église catholique, pour la foi catholique. Quand Saint Jacques nous parle de ceux qui écoutent la parole de Dieu mais qui ne la mettent pas en pratique, qu'est-ce que ça veut dire, mes chers frères? Ce sont justement tous les gens, et ils sont légion aujourd'hui, même dans le catholicisme, des gens qui font une séparation complète entre la vie publique et la vie privée. Je suis catholique en privé, j'écoute la parole du bon Dieu, mais en public, j'oublie la parole du bon Dieu. Je suis catholique à la messe tous les dimanches de 10h à 11h ou à 11h30, mais dans la semaine, mon Dieu, je suis quand même païen. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont persuadés, c'est une énorme erreur, c'est même un crime épouvantable, un péché, c'est le péché libéralisme. Beaucoup de gens sont convaincus que la foi catholique ne doit agir que dans le domaine privé. Et c'est précisément ce que veulent nos ennemis. Nos gouvernants actuels, qui sont tous des laïcs, qui ont la haine de Dieu, haine de l'Église, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent à ce que la pratique de la religion ne soit qu'une chose purement pratiquement privé, exclusivement privé. Vous avez le droit de prier dans votre chambre, vous avez le droit de vous comporter comme un catholique dans votre chambre, vous avez le droit de vous comporter comme un catholique dans votre salle à manger, mais dès que vous passez la porte de votre maison, vous devez mettre votre foi catholique dans la poche avec le mouchoir par-dessus, et on n'en parle plus. Eh bien non, mes bien chers frères, ne soyons pas justement comme ces gens qui ont un catholicisme purement de façade. Et encore une fois, cette foi catholique a des conséquences énormes sur le plan social. Parce que je dois être catholique, encore une fois, dans ma façon de vivre dans la société dans laquelle le bon Dieu m'a placé. Ce sera par l'honnêteté, ce sera par la probité, ce sera par l'humilité, ce sera par le respect des autres dans le bon sens du terme. C'est par toutes ces choses-là que justement je vais prouver à la face du monde que je suis un catholique. Il suffit de voir, par exemple, la tête que fait un vendeur ou une vendeuse dans un magasin quand vous venez lui ramener un euro de trop qui vous a donné par erreur. Il vous regarde avec des yeux ronds en disant « mais on ne voit plus du tout les choses comme ça ». Vous voyez, donc il faut bien comprendre ces choses-là, mes bien chers frères. Nous ne sommes pas simplement catholiques à la messe, nous sommes catholiques en dehors de la messe. La messe, en quelque sorte, c'est l'arrêt, pour prendre une image moderne, l'arrêt à la station-service. On remplit notre réservoir de carburant spirituel, et après il va falloir rouler. Et la route qu'il va falloir faire avant de rencontrer une autre station-service pour le dimanche suivant, et bien c'est une route qui est longue. Et donc il va falloir prendre des réserves spirituelles pour être capable de vivre comme un catholique pendant toute la semaine avant de revenir remplir ses réserves spirituelles, refaire ses réserves spirituelles le dimanche suivant. Dernier conseil de Saint Jacques, il nous dit que pour trouver le bonheur dans les œuvres que nous faisons pour le service du bon Dieu, il faut scruter la loi de la liberté et lui rester fidèle. Encore un conseil qui est tout à fait actuel. Le bon Dieu nous a donné une liberté, mais il ne nous a pas donné une liberté pour que nous fassions ce que nous voulions que cette liberté. Il nous a donné une certaine liberté dans l'usage de notre intelligence, il nous a donné une certaine liberté dans l'usage de notre volonté, il nous a donné une certaine liberté dans l'usage de notre cœur. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon cœur, que j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon intelligence, est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux avec ma volonté. L'intelligence, la volonté, le cœur doivent être soumis à l'intelligence divine, à la volonté divine, au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour pouvoir justement trouver le bonheur dans mes œuvres, c'est-à-dire dans les œuvres que je vais faire, vont être faites au service du bon Dieu, en utilisant correctement cette liberté qui m'est donnée. La liberté, mes bien chers frères, c'est pas le droit de faire ce que je veux. Ça, c'est la licence. La liberté, c'est quoi? La liberté, c'est le choix des moyens pour atteindre une fin qui m'est imposée par le bon Dieu. Le bon Dieu m'indique là où je dois aller. Il m'oblige à y aller. Et il me donne les moyens. Des moyens différents pour y aller, je choisis le chemin qui est le mieux proportionné pour moi, vu les circonstances de ma vie, pour que je puisse atteindre cette fin. Je dois impérativement atteindre. Je ne suis pas libre de mourir ou de ne pas mourir. Je ne suis pas libre d'avoir une âme ou de ne pas avoir une âme. Je ne suis pas libre d'être jugé ou de ne pas être jugé le jour de ma mort. Vous voyez, donc, mais bien sûr, comme il est important de savoir, de comprendre toutes ces choses pour bien réagir et apprendre à nos enfants, surtout à utiliser leur liberté. Je pense qu'un des plus gros, un des devoirs les plus importants des parents, c'est d'apprendre à leurs enfants à utiliser cette liberté qui est une bombe à retardement que chacun de nous avons par le libre arbitre, justement, que les parents doivent apprendre à leurs enfants à utiliser cette liberté pour se protéger, pas pour détruire. Pas pour détruire leur âme, mais détruire l'âme du voisin. Combien de fois les gens nous disent, monsieur l'abbé, je suis libre. Non, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Vous avez une certaine liberté, un certain degré de liberté. Mais vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, je ne peux pas faire ce que je veux avec mon intelligence. Il y a un devoir de soumission, mes chers frères. Soumission à la loi du bon Dieu, c'est ça qu'on appelle la vertu d'humilité, la vertu de docilité. Et c'est pour ça que la concupiscence la plus forte sur nous en général, c'est la concupiscence de l'orgueil, parce que l'orgueil va détruire cette humilité, va détruire cette docilité, va détruire cette obéissance, vertu absolument nécessaire au salut. Le démon le sait. Donc il va essayer de saper en quelque sorte ces trois vertus, détruire ces trois vertus, pour qu'à la place de ces vertus, il y ait l'orgueil, et l'orgueil fait toujours des catastrophes. Regardez ce qui s'est passé avec Adam et Ève lorsqu'ils sont pris pour le bon Dieu. Alors, pour résumer tout cela, on peut prendre l'évangile d'aujourd'hui, l'épître de l'évangile de Saint Jean, chapitre 10. Et qu'est-ce que nous dit Saint Jean ? Demandez, vous recevrez, et votre joie atteindra sa plénitude. Demandez, vous recevrez. C'est quoi ça ? C'est la prière. La première des choses qu'il faut donc savoir faire, c'est savoir prier. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte du Sacré-Cœur et la porte vous sera ouverte. Mais si on ne demande pas, si on ne cherche pas, si on ne frappe pas, on n'obtiendra rien du tout. Ou si on ne sait pas demander comme il faut, on n'obtiendra rien du tout. Il faut demander ce que le bon Dieu veut que nous demandions. Qu'est-ce qu'il faut savoir demander ? Il faut demander d'abord des biens surnaturels. Beaucoup de gens se rappellent qu'ils sont catholiques et qu'il y a un bon Dieu juste avant un examen. Ou juste avant une chose importante, « Ah mon Dieu, demain j'ai un examen, je vais vite aller allumer une bougie à la chapelle pour que j'ai mon examen. » Mais si vous n'avez pas travaillé du tout pour préparer votre examen, vous n'aurez pas votre examen. Et bon Dieu qui vous donnerait votre examen alors que vous n'avez pas travaillé pour passer cet examen et le réussir, il serait injuste de vous le donner. Et vous ne donnera vraisemblablement pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir faire ? Il faut savoir, mes bien chers frères, justement, demander correctement et demander d'abord les choses importantes. Demander d'abord le salut de notre âme, parce que c'est pour ça que je suis sur terre. Je ne suis pas sur terre pour avoir un boulot, un travail extraordinaire. Je suis sur terre pour pouvoir sauver mon âme. C'est ça le plus important. Donc, demandez-vous, c'est vrai que ça veut dire, que avant de demander au bon Dieu, il faut considérer mon devoir d'état, je dois aller au ciel. Et si le travail que j'ai choisi, les situations dans lesquelles je suis familialement ou socialement m'empêchent de vivre en état de grâce et de me mettre sur le chemin du ciel, eh bien, il faut couper. Le bon Dieu l'a dit expressément, si ton œil droit, si ton pied droit, si ta main droite sont pour toi des occasions de péché, coupe, arrache, jette au loin. Ce qui vaut mieux pour toi, rentrer au ciel avec un seul œil, un seul pied, ou un seul bras, une seule main, plutôt que de tomber en enfer avec les deux pieds, les deux yeux et deux mains. Eh bien, chers frères, comme le bon Dieu nous donne l'état d'exemple, je dirais, de conseils très pratiques aujourd'hui. Relisez cette magnifique épître de Saint Jacques, vous l'avez dans le Nouveau Testament, à la fin du Nouveau Testament, relisez tout le texte, elle n'est pas très longue. Là, vous n'avez qu'une petite partie à l'épître de ce jour, mais il y a des choses magnifiques dans cette épître de Saint Jacques. Relisez-la. Et demandons à la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, d'avoir, de garder en nos âmes l'esprit d'Église, qui est un esprit de combat, le combat contre les révolutionnaires, mais en même temps un esprit d'humilité, un esprit de docilité, un esprit d'obéissance, comme je viens de vous le dire. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à voir l'étendue du désastre, comme on dit. Faire un examen pratique de ma vie de tous les jours, et si je constate qu'il y a vraiment un gros obstacle qui m'empêche de rester en état de grâce, qui me pousse dans le péché, qui me pousse loin du bon Dieu, qui me pousse vers l'enfer, qui me pousse vers le démon, eh bien, il faut couper. Il faut casser tout ça pour absolument remettre le bon Dieu dans notre vie de tous les jours. Et si je me sens trop faible pour y arriver par moi-même toute seule, eh bien, alors, allons demander l'aide de la Très Sainte Vierge Marie. C'est bien pour cela que le bon Dieu a mis au pied de sa croix sa mère. C'est pas pour rien. C'est pour justement que nous sachions nous approcher d'elle, passer par elle pour arriver à son Fils. Elle est le cou de l'Église. Elle est l'endroit par lequel passent toutes les vertus, toutes les grâces infuses que le bon Dieu nous donne. Elle passe toujours par sa mère parce qu'elle est la mère de Dieu, étant mère de Dieu, elle est mère de l'Église. Alors nous demandons, bien chers frères, toutes ces grâces par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.